Gisèle Ratzé dans Remue Ménage, jeune femme, Radio Zone 93.8. Thomas Mann l'appelait l'ange dévasté. Son amie Ella Maillard, qu'elle accompagnait en Afghanistan en 1938, en fit Christina, l'héroïne de son roman La Voix cruelle. Amour raté, années de voyage et d'errance, conflit intérieur. Anne-Marie Schwarzenbach meurt à 34 ans en 1942, laissant une œuvre importante mais peu connue que l'on découvre aujourd'hui. Amie de Klaus et Erika Mann, elle hésite entre l'activisme politique et la fuite dans le rêve vers un Orient mythique où elle pourrait oublier l'Europe et ses séismes. Nous sommes dans les années 30. D'Alep à Damas, de Palestine en Perse, de Beyrouth à Téhéran, ses voyages la plongent dans l'intemporel et l'incertain. Les steppes arides, les dunes infinies, les paysages blafards et réels, le climat brutal lui inspirent des récits vifs et serrés où se meuvent lentement des personnages à la dérive, colonies européennes perdues dans l'immensité du sable et du temps. D'une grande force émotionnelle, l'écriture de ces récits est retenue, précise, impressionniste. Je vous lirai aujourd'hui Une femme seule, l'un des contes édités dans la collection Outrement, parmi le recueil Orient Exil. Lorsqu'elle arriva dans la capitale, elle ne connaissait personne, à part un jeune secrétaire de la légation danoise dont on disait qu'elle n'avait rencontré plusieurs années auparavant au Nouveau-Mexique ou en Arizona. Elle avait écrit un livre sur le Nouveau-Mexique qui avait fait beaucoup de bruit lors de sa parution au Danemark et plus tard aussi, quand il avait été traduit en anglais. Mais cela remontait au moins à 3 ans et les gens qui avaient lu ce livre ou prétendaient l'avoir lu en parlaient en des termes fort désobligeants. C'était l'œuvre d'une aventurière, disait-il, et il y était beaucoup moins question du Nouveau-Mexique que de whisky passé en fraude, de la police et imberbe des jeunes Indiens et de la vie dans un ranch où les gens distillaient leur propre alcool et s'enivraient de l'air rare et sec des hauts plateaux et vivaient de leurs dettes et s'aimaient la nuit dans les champs de maïs. Apparemment, le livre devait son succès à quelques mauvaises critiques écrites à son sujet et au fait qu'un jeune chef indien avait suivi l'auteur jusqu'à New York avant de se suicider parce qu'elle avait refusé de l'épouser. Elle était ensuite retournée au Danemark auprès de son mari et de ses enfants et de son éditeur, désireux de profiter du succès de ce premier livre. Elle avait essayé en vain de l'inciter et il l'avait essayé en vain à faire un nouveau voyage. Elle vivait alors dans sa propriété au milieu des forêts et des gras pâturages danois et ne s'intéressait qu'à ses chevaux, ses chiens et ses enfants. C'est seulement quand son mari eut perdu toute sa fortune dans l'affaire Kruger, le fabricant d'allumettes, et qu'après avoir été démis de sa charge d'officier de cavalerie, il se fut révélé incapable de gagner sa vie. Elle s'était alors décidée à accepter la proposition de son éditeur et à partir pour la Perse. Elle ignorait tout ce pays, mais c'était sans doute ce qui lui avait permis de signer le contrat et de quitter son domaine et ses enfants. Elle arriva en septembre. Pour la Perse, ce n'était pas une mauvaise saison, mais la canicule était encore très forte en ville et le voyage à travers le désert ainsi que le trajet de Bagdad jusqu'aux montagnes avait dû être épouvantable. À cette époque, je travaillais sur les fouilles d'Abdelrabad. Notre maison était située à une demi-heure de la ville dans un verger de grenadiers. Naturellement, la nouvelle de l'arrivée de la baronne Catherine Hartmann nous parvint avant même qu'elle fût vraiment là. En Orient, il est encore très rare qu'une femme voyage sans un homme, ne serait-ce qu'une chanteuse ou une danseuse roumaine engagée au Pars ou à l'Astoria. Il n'était donc pas étonnant que toute la colonie européenne s'intéressât à la personne de Catherine Hartmann. Une baronne, une aventurière, que venait-elle faire ici? Serait-elle invitée à la délégation? Elle logeait en ville à l'hôtel Naderi et ne rendait visite à personne, sauf aux Danois qu'elle connaissait déjà, et à quelques personnalités persanes pour lesquelles le consul de Perse à Copenhague lui avait donné des lettres de recommandation. Bien sûr, on se demandait pourquoi elle ne s'était pas d'abord adressée aux Européens, mais on ne lui en voulait pas. C'était manifestement quelqu'un d'original, une personnalité intéressante, et il était permis d'espérer du sensationnel. En plus, elle était belle, et on savait qu'elle était une excellente cavalière. Ces messieurs brûlaient de mettre à sa disposition leurs chevaux turkmènes et arabes. Je rencontrai la baronne le lendemain de son arrivée, sur la terrasse du jeune Danois. Il avait à Chimran un beau jardin très frais avec un bungalow et une piscine. Ils buvaient tous les deux du whisky avec du soda pétillant et glacé tout en parlant du Nouveau-Mexique. Elle me dit qu'elle s'intéressait à tout, même aux fouilles archéologiques, mais je me rendis compte qu'elle ne s'y connaissait rien. Je pensais que cela l'ennuierait, mais je l'invitai tout de même à venir nous rendre visite à Abderabad. Elle leva la tête et me regarda de dessous le bord blanc de son chapeau. Elle avait des yeux bleu foncé, d'un éclat froid, presque noir, et profondément enfoncé sous un front pâle, fortement bombé. Son visage était beau, grand, masculin, les joues creuses, la bouche et le menton puissants, provoquants. Une dentition de cheval, me dis-je. Seules les ombres autour des yeux et les tempes donnaient à ce visage quelque chose de douloureusement émouvant. Elle vint nous voir quelques jours plus tard. Elle n'avait pas prévenu, il était tôt, 7 heures peut-être. Nous travaillions au musée, comme nous l'appelions, et n'avions pas encore pris le petit déjeuner. Je classais les objets déterrés la veille au soir et à côté de moi, George Gordon examinait quelques pièces de monnaie partent au microscope. J'étais assise le dos à la porte était ouverte et la lumière venait du fleuve et des rives claires et argileuses entraient dans la pièce. À travers la moustiquaire, je voyais devant la fenêtre les troncs blancs des jeunes ormes que nous avions plantés autour du bassin. Puis Jelena passa et son visage de femme russe au large sourire remplit le cadre de la fenêtre. Elle allait à la cuisine surveiller le cuisinier qui préparait le petit déjeuner. Je lui fis un signe de la tête. Puis j'eus l'impression que quelqu'un m'appelait. Mais ça venait de l'autre côté du jardin, où il n'y avait personne. On appela une deuxième fois. Et Georges dit « Je crois que quelqu'un t'appelle ». Et au moment où je me retournais, je vis Catherine Hartmann par la porte ouverte. Elle était à cheval dans le fleuve et appelait. Le cheval ne s'arrêtait pas de gigoter sous elle et d'agiter son arrière-train. Venant du gué, un perse coiffé d'une casquette noire remontait le fleuve. Il avait du mal à faire avancer son cheval, l'eau éclaboussait ses jambes, il tapotait le cou de l'animal pour le calmer. Gordon et moi sortîmes en courant. Ils gagnèrent la rive, mirent pied à terre, et Hassan, notre serviteur, arriva pieds nus et conduisit les chevaux dans la cour. Je reconnus le jeune homme que la baronne avait amené. C'était Ali Ahmed, le plus jeune fils des Karagöl, l'une des grandes familles de Perse. Ils étaient turcs ou kurdes et possédaient des villages au Kurdistan, à la frontière irakienne. Depuis que le vieux prince était mort du choléra, c'était la mère qui régnait sur la famille. Elle avait 6 garçons, dont les 2 plus jeunes avaient été élevés à Lausanne. On racontait qu'elle était d'origine nomade et ne savait ni lire ni écrire. C'était un honneur que d'être invitée chez elle. Elle recevait peu d'Européens et avait interdit à ses fils d'épouser une Européenne. À ses yeux, cela ne pouvait être que catastrophique pour les deux parties. On disait qu'à Lausanne, Ali Ahmed avait été fiancé à une Suissesse, mais sa mère l'avait obligé à épouser une jeune fille perse dont la famille était encore plus riche et plus puissante que les Karagöl. Le père de la jeune fille était mort peu après le mariage. Certains prétendent dire qu'il était mort en prison, d'autres qu'il s'était suicidé. Et sa fortune avait été confisquée. La jeune fille n'avait alors que 16 ans. Depuis, elle vivait chez sa belle-mère, on la voyait rarement. Il lui était interdit d'accepter toute invitation. Gordon et moi avions rencontré Ali Ahmed lors d'un match de polo. Il avait la réputation d'être bon joueur et d'avoir d'excellents chevaux. Il n'était jamais venu à Abderrahabad. D'ailleurs, peu de visiteurs venaient nous voir de la ville. De près, les fouilles sont très décevantes. « Ali Ahmed a tenu à me montrer Abderrahabad, » dit Catherine Hartmann. « Il est si fier des trésors de sa Perse ancienne. » « Je lui ai dit que je n'y connaissais rien, » dit Ali. Il marchait derrière nous avec Georges. Il parlait persan. Nous traversâmes le musée et regardâmes les poteries préhistoriques sur les étagères. Georges sortit les pièces d'or islamiques que nous avions trouvées à la citadelle. Ces pièces d'or impressionnaient beaucoup les visiteurs, nous le savions, pour en avoir fait souvent l'expérience. Puis la cloche à chameau retentit et nous allâmes dans le jardin nous asseoir à la table du petit déjeuner sous les ormes. La table était placée au milieu des carrés bien délimités où nous classions les fragments que nous appelions pour cette raison « carrés de débris ». Quelques ouvriers persans étaient assis sur les paillasses à même le sol et lavaient les morceaux d'argile rapportés du site la veille. Des bidons d'essence vides leur servaient de récipients à eau. Devant le musée, il y avait tout un tas de ces bidons que nous utilisions à des fins diverses, pour faire des portes de garage, réparer des murs, transporter des objets fragiles et comme sièges. Kat regarda au loin par-delà le jardin et les carrés de débris. « Que faites-vous de ces tas de ruines ?» demanda-t-elle. Elle était assise à côté de Gordon. Elle avait retiré sa veste sous laquelle elle portait un sweat jaune à col roulé, révélant ainsi ses larges épaules et son buste puissant. Elle était superbe. Pourquoi vous ne donnez-vous tant de mal avec ces ruines ? Nous les recollons, répondit Gordon. C'est un travail de patience. Et ensuite ? Ensuite, nous les envoyons au musée de Philadelphie. Hassan traversa la cour et apporta du thé, des œufs, du pain grillé persan. Kat n'avait jamais mangé de pain persan. On dirait du pain suédois, dit-elle. Elle fit fondre le beurre dessus. Et dans 1000 ans, poursuivit-elle, le regard au loin, ce jardin sera un tumulus et on déterrera vos bidons d'essence comme des antiquités. Ce sera tout aussi utile que le travail que vous faites maintenant. Mais au moins, nous n'aurons plus besoin de nous en occuper, dit Gordon. Elle lui lança un rapide coup d'œil. Cela vous ennuie-t-il donc ? Demanda-t-elle. Non. Alors, allons avouer que ça vous ennuie. Bon, dit Georges, ça nous ennuie parfois, mais c'est notre métier. Elle leva les bras et les croisa derrière la nuque. « Et il y a tellement de choses bien vivantes dont on devrait s'occuper. Le monde est si merveilleusement vivant. » Ali Ahmed ne prononça pas un mot de tout le petit déjeuner. Il était assis là et semblait écouter Gordon. Son assiette était remplie de grappes de raisin, mais il oublia de les manger. Il regardait Catherine Et il avait dans son regard quelque chose d'attentif, presque comme de l'humilité. Si merveilleusement vivant. Il suivit son mouvement quand elle leva les bras et ses yeux s'illuminèrent. Le moteur du camion se mit à vrombir dans la cour. Gordon tira sa montre de sa poche. « Il faut que j'aille sur les fouilles, » dit-il, et s'adressant à moi. « Mais tu peux très bien rester ici et faire visiter encore la baronne. Ou bien, voulez-vous venir avec moi ?» Catherine bondit sur ses pieds. « Non, » dit-elle, « nous devons partir. Nous rencontrons l'émir Hossein à un pique-nique persan dans un jardin persan. Je voulais vous inviter à nous accompagner. » Ali Ahmed était déjà parti prendre les chevaux dans la cour. « Si tu veux y aller, me dit Georges, moi je n'ai malheureusement pas le temps. Il faut que j'aille remplacer Van là-bas. » Ali Ahmed amena les chevaux. Il donna un bakchis à Hassan, prit les rênes et traversa la cour, conduisit lui-même les bêtes au bord du fleuve. Kathratman me regarda. « Je vous envoie la voiture de l'émir, » dit-elle. J'avais très envie de participer à un pique-nique persan. « C'est vraiment très gentil de votre part, » dis-je, « mais nous n'avons absolument pas le temps. Je dois aller sur les fouilles avec Gordon pour relayer Van. » Elle traversait déjà la cour à grands pas. Elle ne se retourna pas. « Comme vous voulez, » s'écria-t-elle, « mais comment peut-on être aussi maniaque? Comment peut-on passer sa vie au milieu de tas de débris ?» Quand Gordon et moi nous fîmes notre tournée sur les fouilles, nous vîmes au loin dans la plaine plate les deux chevaux de Kat et d'Ali Ahmed. Ils galopaient en laissant derrière eux un petit nuage de poussière. Je revis Catherine Hartman une semaine plus tard, un cocktail, chez Gabby Miles. Gabby Miles était une amie avec Gordon. Elle s'intéressait à l'archéologie et venait parfois à Abderrahabad le soir, dans son élégant cabriolet, regarder les dernières trouvailles. Elle parlait pendant 10 minutes de la technique des lustres, des vases mina et des décorations préhistoriques. Dans notre musée sobre et froid, où sur chaque table de travail brûlait une lampe à pétrole, Gabby Miles allait et venait, vêtue d'une robe de couturier, blanche, trop ajustée, prenait des cigarettes dans nos paquets qui traînaient partout, de chez Oraille au bazar, numéro 5, ordonnait à Hassan d'apporter de la vodka. Il rayonnait, parce que la hanoune anglaise parlait persan avec lui, puis elle remplissait elle-même les verres et buvait avec nous, assise sur la table à dessin de Van. « Il fallait que je vienne voir comment va mon ami Georges, » disait-elle. Ensuite, elle repartait, laissait dans notre froid musée la douce fragrance de son parfum et l'éclat délicat de ses cheveux blonds, bouclés comme ceux d'une petite fille. Gabby Miles s'intéressait aussi aux chevaux, et surtout aux chevaux de polo, et Ali Ahmed passait pour son amie intime. Elle donnait un cocktail toutes les semaines. D'habitude, elle l'organisait le jeudi, par égard pour son ami George Gordon, car on ne travaillait pas à Abderrahabad le vendredi. Nous pouvions donc nous permettre de sortir le jeudi soir. Les Européens tenaient à être invités chez Gabby Miles. On ne disait pas « chez Mr. and Mrs. Miles », car Mr. Miles, attaché commercial à l'ambassade d'Angleterre et passionné de pêche à la truite, ne jouait qu'un rôle mineur comparé à sa femme. Georges et moi partîmes donc en ville le jeudi suivant, dans notre vieille Chevrolet dont les marchepieds étaient attachés, arrachés, et dont la bâche flottait comme une voile dans la poussière de la route. « Tu crois que cette baronne danoise y sera ?» lui demandai-je pendant le trajet. « Tu crois qu'elle est déjà admise chez Gabby ?»« Je crois que Gabby sera jalouse d'elle. Elle n'aime pas les femmes. » « Mais si Catherine Hartman est invitée, » répondis-je, « c'est qu'elle aura déjà fait la conquête de toute la ville. » Georges ne dit rien. Je ne savais pas si Catherine Hartman lui avait plu. Nous arrêtâmes la Chevrolet dans la file des élégantes limousines garées dans l'allée devant la maison des Miles. Quand nous entrâmes dans le salon, la plupart des invités étaient déjà là et se tenaient par groupe au milieu des chaises bombées recouvertes de chintz. Au fond de la grande pièce, un feu brûlait dans la cheminée. Gabby était assise au bar avec Ali Ahmed. Elle portait une robe courte, blanche, un peu trop légère pour la saison, qui révélait ses jambes minces, ses bras trop maigres et ses petites épaules frêles. Elle ressemblait ainsi à une écolière et s'en était presque émouvant. Elle nous fit signe, prit deux verres dans le bar et Ali Ahmed, l'ami de la maison, nous versa un whisky. « Avez-vous déjà vu la baronne Hartman ?» demanda Gabby. « Vous n'allez pas tarder à faire sa connaissance. Elle m'a promis de venir ce soir. »« Elle est venue nous voir sur les fouilles, » dis-je. « Naturellement, » dit Gabby, « elle s'intéresse à tout. J'aurais dû penser qu'elle vous avait déjà repéré. » Elle se pencha en avant et en s'appuyant sur l'épaule d'Ali. « Et figurez-vous que ce garçon me reproche de l'avoir invité. Tout errant parle d'elle et je devrais m'interdire de l'inviter ?»« Ça a l'air d'être une femme très intelligente, » dit Georges. « Vous voyez, » Ali dit Gabby en secouant le jeune homme par l'épaule, « ne soyez donc pas si rabat-joie, je vous en prie. Kat vient chez moi demain peindre mon nouveau cheval, le Turkmen. » Vous devriez la voir quand elle peint. Elle relève ses manches comme un gars, se plante devant la toile, les jambes écartées, et se met à peindre comme si sa vie était en jeu. À cet instant précis, le serviteur ouvrit la porte et Catherine Hartmann entra. Elle portait son sweat jaune à col roulé sous une veste marron et tenait son chapeau et ses gants à la main. On aurait dit qu'elle venait de sauter de cheval et tandis qu'elle traversait la pièce pour aller vers Gabi, elle secoua la tête et rejeta en arrière ses cheveux courts, bruns et bouclés. Toutes les personnes présentes se turent et reculèrent afin de lui faire place. « Ne vous dérangez pas !» s'écria Kat en riant. « Je me suis trop longtemps promenée à cheval, il faisait si beau dehors !» Dans le silence qui s'était fait soudain et dans la pièce remplie de fumée de cigarettes, elle apportait une odeur de poussière et de cuir et une grande bouffée du vent de la plaine. Catherine Hartmann avait conquis tout Téhéran. Elle était amie avec Gabi Miles, peignait son cheval turkmène et l'entraînait pour le concours de saut qui aurait lieu à la fin des Rally Papers. Elle montait les meilleurs chevaux de polo d'Ali Ahmed et prenait le thé chez sa mère, le chef redouté de la famille Karagöl. Le gros émir Hossein donna pour elle un dîner persan. Son serviteur et compagnie permanent, le bouffon Akbar, la promenait comme un chauffeur dans sa nouvelle bouique, l'accompagnait au bazar et chez les antiquaires. Elle alla dans les montagnes avec Mr. Miles, pêcher la truite et avec Ali Ahmed et ses frères sur leur terre du Kurdistan, chasser le bouquetin. Elle n'avait plus le temps de venir à Abderabad, mais elle nous proposa, à Georges et à moi, d'aller dans la steppe turkmène assister aux célèbres courses de chevaux des nomades. Nous n'avions malheureusement pas le temps. Elle s'y rendit seule avec un chauffeur arménien. Quand elle revint, la saison d'hiver avait commencé en ville. Le gros émir donna une fête dans le style de la Perse ancienne où l'on vit des costumes magnifiques, des danseuses et des lutteurs persans. Au cours du repas, il n'y avait que des plats persans, des faisans, du riz avec du beurre, des raisins secs et des pistaches, du sucre et des melons disparants. Il fit entrer une femme en costume de danseuse. Il avait eu beaucoup de femmes, celle-ci était la plus jeune, elle n'avait que 14 ans, une enfant de nomade qu'il avait trouvée dans l'un de ses villages au pied du Demavend. D'habitude, il cachait soigneusement son épouse, mais ce jour-là, il révéla sa beauté. Elle enleva son voile brodé d'or et dansa dans ses petites sandales vertes, également brodées d'or. Quand Kat se leva et l'attira vers elle devant tous les invités pour l'embrasser, elle ouvrit les yeux, la regarda avec ce regard sombre et humide qu'ont les gazelles. Kat visita un bain persan réservé aux femmes et quelques jours plus tard, voilée de noir et accompagnée du bouffon Akbar, un bordel situé près de la porte de Kasvin. Akbar était un cousin des Karagöl. Il avait dilapidé sa fortune au jeu et vivait dans la maison de l'émir, à la fois toléré et indispensable. Il fréquentait beaucoup d'Européens. On racontait qu'il était au service de la police étrangère. Les Persans, d'origine très réservée avec les étrangers, adoraient Catherine et l'invitaient chez eux. Elle fit la connaissance de leurs femmes, vit leur collection de miniatures, de corans précieux, leurs amants en marqueterie et leurs habits lourds de soie. Afin de pouvoir pénétrer dans la mosquée sacrée de Abdul Azim, Kat se maria pour 24 heures avec un frère de l'émir qui, tout comme le bouffon Akbar, vivait en pique-assiette dans la maison du gros bonhomme plein de sous. Il était petit, Kat le dépassait d'une bonne tête. Elle portait le tchador, le voile noir, comme une armure posée sur ses larges épaules. C'étaient des femmes stériles qui venaient en pèlerinage dans cette mosquée. Montées sur des ânes blancs, elles arrivaient sur la vieille route des caravanes jusqu'à la porte du sanctuaire qui étincelait avec ses mosaïques bleues et ses ornements dorés. Catherine entra dans la cour de la mosquée aux côtés de son époux tout tremblant. On le regardait fixement. Quand elle ressortit, une foule menaçante la suivit dans l'étroite ruelle du bazar du village et ne recula que devant l'automobile de l'émir. Avant même que les 24 heures fussent écoulées, l'époux fut envoyé dans un des domaines, au pied du Demavend. Comme les Persanes sortaient rarement et recevaient encore plus rarement des invités chez elles, les Persans donnaient leur dîner la plupart du temps dans l'un des établissements de la ville, au Pars ou à l'Astoria, qui tenait à la fois du dancing, du bar, du restaurant. Les orchestres venaient de Beyrouth ou mieux encore d'Égypte. Les propriétaires étaient les Arméniens, des Levantins, la cuisine y était mauvaise, le whisky la seule boisson buvable. Les Européens fréquentaient ces établissements parfois en fin de soirée après le dîner, quand on n'avait plus rien à se raconter et qu'on commençait sérieusement à s'ennuyer. Les maîtresses de maison ont un instinct très sûr pour ces moments-là. Alors elles proposaient qu'on aille s'amuser encore un peu. On commandait des fiacres et toute la compagnie se transportait dans l'établissement, qui avait le meilleur orchestre et des danseuses fraîchement arrivées de Roumanie ou de Hongrie. Les choses changèrent pendant l'hiver que Catherine Hartmann passa dans la capitale. Elle était amie avec de nombreux Persans. L'émir Hossein fut le premier à inviter quelques Européens à dîner en même temps qu'elle au Pars, tout d'abord uniquement des célibataires, le secrétaire de la Légation danoise, le médecin anglais. C'était Kat elle-même qui nous fit la surprise d'envoyer Akbar nous chercher à Hyderabad, George Gordon, Van et moi. Puis Gabby Miles fit le premier pas en donnant un souper à l'Astoria. Le repas commença à 10h et dura 2h parce que le service était mal fait. On dansait entre les plats. À 3h, Georges et moi, nous réussîmes à convaincre Akbar de nous raccompagner. Nous sortîmes dans la rue. Un jeune noir en uniforme rouge nous courait après pour apporter le manteau d'Akbar. Maintenant, c'est comme ça toutes les nuits, dit Akbar. C'est la belle vie depuis que la baronne est là. Il s'assit au volant et nous descendîmes la rue principale, large et déserte, en direction du bazar. « Je m'étonne seulement qu'elle tienne le coup, dis-je. » Akbar tourna dans la rue du bazar. Il roulait vite, il était légèrement ivre. « Qu'elle tienne le coup ? » demanda-t-il. « Votre baronne ? Elle peut épuiser 10 chevaux et tuer 10 hommes sans même reprendre haleine. » Georges, qui était assis derrière, lança. « Roulez plus lentement et arrêtez-vous à la porte de la ville. Nous devons montrer nos papiers. » À la porte de la ville, lui rétorqua Akbar, je pensais que vous vouliez peut-être aller dans un bordel comme la baronne. Georges ne répondit pas. Akbar cria quelque chose aux sentinelles qui se tenaient à la porte et sortit dans la plaine. Oui, dis-je, elle se permet des tas de choses, elle est courageuse et peut se permettre. Toute la ville est folle d'elle, peut-être tout simplement parce qu'elle est belle, ajoutai-je, oubliant qui était assis à côté de moi. Akbar éclata soudain d'un rire bruyant. « Belle ! » s'écria-t-il et secoué de rire. Il lâcha le volant et se frappa la poitrine avec les poings. « Vous appelez ça belle ? Ce n'est pas belle qu'elle est, c'est presque un homme, c'est un vrai cheval. »« Faites donc attention !» s'écria Georges à l'arrière. Nous arrivâmes à Abderabad à 3h30. Georges et moi devions partir avec le camion sur les fouilles à 5h30. Nous décidâmes de ne plus accepter d'invitation. Nous nous tâmes à cette décision pendant 15 jours. Nous écrivîmes à Gabby Miles que nous ne pourrions pas venir à son cocktail le jeudi suivant parce que le soir, nous devions maintenant mettre à jour le catalogue. Nous remerciâmes l'émir pour son invitation, mais nous ne nous y rendîmes pas. Nous offrîmes une vodka à Akbar quand il vint nous chercher en voiture et nous lui montrâmes tous les carrés de dégris jusqu'au moment où il en eut assez et retourna en ville. Nous nous levions à 5 heures et travaillions toute la journée. Le soir, nous restions assis avec Van sur l'escalier du musée et parlions de ce que nous ferions lorsque la saison serait terminée. Catherine tomba malade et personne ne lui rendit visite de ce moment-là. Personne ne demanda des nouvelles de Catherine. Toutefois, le bruit se répandit que, gravement malade, elle était rentrée à Téhéran et qu'elle habitait dans la maison de la mère d'Ali Ahmed. Elle ne donna signe de vie à aucun de ses anciens amis. Personne ne l'avait vue. Elle se cachait comme un animal malade. Ou, par orgueil, avait-elle honte de son jeune amant, du jeune et élégant Ali Ahmed, aux cheveux noirs, qui avait repris avec autant de naturel son rôle d'ami intime de Gabi ? Catherine l'aimait-elle à ce point ? « Mon Dieu, qu'on la laisse un peu tranquille !» me disait Georges. « Mais elle est malade, dis-je, elle n'a probablement plus d'argent pour rentrer chez elle. Et peut-être veut-elle rentrer chez elle ?»« Probablement, » dit Georges. « Mais comment s'occuper d'elle ? Elle ne veut pas nous voir, elle nous a oubliés. » Ali Ahmed est depuis quelques mois à Rome. On lui prédit une brillante carrière. Le bouffon Akbar nous a appris que Catherine a fait prolonger son visa et qu'elle voulait retourner dans les montagnes des Bakhtiari, chez les chefs nomades, vers les chevaux sauvages et les tentes en poils de chèvre. Il est toutefois difficile de se fier à Akbar, mais je peux m'imaginer que Catherine se soit habituée à la vie de là-bas. Elle n'écrira pas un livre sur les potins de la capitale. Peut-être ne reverra-t-elle jamais le Danemark, ses gras pâturages et ses forêts de feuillus. Pourtant, c'est une femme formidable. Mais Georges pense qu'on n'aurait jamais dû la laisser seule. C'était Une femme seule, tirée d'un recueil de nouvelles écrites par Anne-Marie Schwarzenbach, Orient Exil, publiée aux éditions Autrement. C'est étrange, c'est... Nouvelles étranges, effectivement, disais-je à Viviane, qui est arrivée dans, bientôt dans vos oreilles, les oreilles à travers les informels de Radio Pleine Lune. Étrange nouvelle écrite par Anne-Marie Schwarzenbach, étrange atmosphère d'une femme qui travaille, on ne sait pas très bien sur quoi, à part les fouilles archéologiques, dans cet Orient lointain. Voilà, pour aujourd'hui, Remue Ménage, c'est terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine, encore entre cinéma et femmes du Moyen-Orient, pas de l'Orient lointain. Dans quelques instants, les informels de Radio Pleine Lune et plus tard, les coups de cœur dans l'agenda de Marjolaine.